Parlons Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
RTVFM.
Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour la dernière émission de l'année. Et oui, on va se quitter pour 3 mois de vacances. Juillet, août, septembre, on se retrouvera le 1er octobre, aux alentours du 1er octobre, pour une nouvelle saison. C'est la 122e émission. Et pour cette 122e, je suis un peu tout seul parce que Valérie, elle est en vacances. Je la salue, bien entendu. Elle a bien raison de partir en vacances. Et Alexandre, ben, il n'est pas avec nous parce que demain, il continue le bac de français. Donc, on lui souhaite bonne chance pour ses révisions, pour se délasser, en espérant qu'il nous écoute, qu'il écoute l'émission. Mais en tout cas, je suis quand même très très bien entouré. Tout d'abord, de notre technicien du soir, Bruno. Salut Bruno.
Salut Lionel.
Ça va Bruno ?
Ça va bien, très bien.
Très bien. Bon, écoute, je suis content que tu sois avec moi, comme ça je ne serai pas tout seul pour animer cette émission. Et bien sûr, il y a Nathan. Salut Nathan.
Bonsoir.
Ah, le micro n'est pas allumé.
Le micro, ça marche.
Salut
Bonsoir.
Nathan. Ça va Nathan ?
Oui, ça va très bien.
Alors toi, tu es stagiaire.
Oui, tout à fait.
En technique ?
Oui, ça.
Bon, t'es avec le meilleur prof, Bruno.
Oui, tout à fait.
Bon, mais écoute, on aura l'occasion, si tu veux intervenir, bien entendu, sur les disciplines sportives qu'on va parler aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Alors, concernant justement les disciplines sportives, en première partie d'émission, nous allons parler un petit peu de tir à l'arc avec les archers Saint-Siffrin. Et pour en parler, Stéphane Dahan, le président. Salut Stéphane.
Bonsoir, comment ça va ?
Ça va très bien, et toi ?
Ça va bien, ouais, ça va bien.
Écoute, on a beaucoup parlé des archers Saint-Siffrin durant toute la saison. Tu nous as fait l'honneur de nous donner les résultats de tous tes archers.
Écoute, très honnêtement, on s'est aperçu qu'on avait d'excellents résultats et que d'autres clubs de la région communiquaient un peu plus que nous. Donc, on a mis en place vraiment une cellule de communication et c'est Céline qui fait ça super bien. Ce qui permet de...
Mais je te le confirme.
De l'afficher un peu plus.
Donc, un grand merci à Céline parce que vraiment, on avait les résultats avant chaque émission et ben, il y avait d'excellents résultats. Donc on fera un petit bilan justement de cette année qui vient de s'écouler et on parlera de l'événement qui aura lieu ce 1er et 2 juillet. Hein, c'est un concours FITA et fédéral, mais on en parlera tout à l'heure.
Voilà.
Et en espérant bien sûr que tes sportifs continuent dans leur progression en tout cas.
Ils sont bien partis pour, ouais.
Ben en tout cas, oui, c'est bien parti pour. Ensuite, en deuxième partie d'émission, il n'est pas encore arrivé, on va parler du club, le motoclub Ventoux Loisirs Saint-Ponchon, avec un événement incontournable dans le Vaucluse. C'est le Trial Urbain International. C'est la 8e édition cette année.
Dans Carpentras ?
Dans Carpentras, il y a différents pôles d'évolution. Ça attire un monde énorme. Ça a une renommée de plus en plus importante. Et donc, pour en parler, je serai avec Rudy Andrieux, qui est éducateur sportif et entraîneur au sein du club. Et il y aura, je pense, quelques nouveautés, mais on en parlera tout à l'heure. Et puis ensuite, on parlera d'un événement aussi très, très important. Il aura lieu à Mazan. Et c'est la 3e édition. C'est la fête du sport en famille. Parce qu'à Mazan, c'est vrai que la famille, c'est important. N'est-ce pas, François ?
Oui, la famille, puis le sport.
Et le sport.
C'est très important. Et puis... On est pas mal lotis cette année. On a quand même de grosses cylindrées et de bons résultats. Bonsoir
voilà.
À tous.
Voilà, bonsoir François Richip. Donc, tu es co-président de l'Office municipal des sports de Mazan.
Tout à fait.
Avec Robert Michel, qui est le deuxième co-président.
Voilà.
Donc, on aura l'occasion justement de parler de cette rencontre. Et puis, il y a des marraines, pas n'importe lesquelles. Hein, les championnes de France en handball, les moins de 18 ans. Et parce que à Mazan, je peux vous dire, il y a un sacré niveau en handball, hein, les filles qui montent en National 2. Mais tout ça, on en parlera justement en fin d'émission.
D'accord.
Voilà un petit peu, donc un programme assez chargé. Alors, comme Valérie n'est pas là, Alexandre n'est pas là non plus, je vais vous faire un petit peu le sport en général. Parce qu'il y a eu quand même quelques rendez-vous ce week-end, il y a eu des événements, il y a quelques petites annonces. Donc, je vais en profiter pour vous donner tout ça. Tout d'abord, le Tour de France va bientôt commencer.
Ouais. Hein,
le départ, c'est samedi 1er juillet. Alors, on part pas en France. On commence à Düsseldorf, en Allemagne. Et ensuite, il va partir jusqu'au 23 juillet, arriver, bien entendu, toujours pareil, aux Champs-Élysées. Et c'est la 104e édition du Tour de France. Et voilà, il a déjà passé les 100 ans, 104e.
Ah.
Vous suivez un petit peu le Tour de France, tous les deux ?
Oh, oui.
Moi, pas trop.
Non, pas trop, non. Moi, j'ai eu l'occasion de les voir passer à Cavaillon l'an dernier. C'est impressionnant à voir. Bon, ouais, après, les suivre tout au long du parcours, peut-être pas, mais sur une étape, ça peut être sympa.
Moi, je les ai vus passer à Mazan. C'est pour la première fois depuis 100 ans qu'ils n'étaient pas passés à Mazan. Donc, ils sont passés à Mazan l'an dernier.
Mais tu vois.
En provenance de Venasque.
C'est vrai. Et en plus, ils sont passés par des rues. C'était vraiment étroite parce que la route qui va vers Bédouin, elle n'est pas très large.
C'est compliqué, compliqué, ouais.
Il a fallu pousser peut-être les maisons.
Non, c'est eux qui se sont poussés les coudes.
Ensuite, le deuxième moment important, alors c'était ce week-end, c'est le basketball. Alors, il y a deux événements importants. Tout d'abord, un peu moins important, c'est un NBA, c'est Tony Parker. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il va mieux. Parce qu'en fait, il s'était blessé au début des playoffs et il n'a pas pu jouer justement la fin de saison avec son équipe San Antonio. Alors, il a quand même expliqué qu'il était toujours en rééducation et qu'on ne le reverrait pas avant le mois de novembre. Donc, on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais pour l'instant, sa blessure était quand même assez sérieuse. Autre chose au niveau du basketball, alors là, c'est un événement assez important. Je ne sais pas si vous connaissez Céline Dumerc.
Les filles, les braqueuses.
Ouais, c'est ça. L'équipe de France de basket, et oui, c'était Sader hier. Elle a joué donc la finale du championnat d'Europe contre l'Espagne. Malheureusement, grosse défaite contre l'Espagne, 71-55 pour son dernier match, parce que Céline, effectivement, a terminé sa carrière hier. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle avait commencé sa carrière ?
Non, mais elle doit bien avoir 35 ans, cette dame. Non ?
Alors, je ne connais pas son âge, je ne me suis pas permis de lui demander.
Non, mais...
Par contre, elle a commencé sa carrière en équipe de France, je parle, en 2003, 14 ans passés en équipe de France de basketball. Et là, malheureusement, elle termine sa carrière. Bon, sur une défaite, mais bon, ça a quand même été la meilleure joueuse française de l'histoire qui a joué quand même 5 finales avec les Bleus. Et là, en l'occurrence, elle a perdu. Donc, elles sont devenues vice-championnes d'Europe et c'est leur 3e finale qu'ils perdent.
Et ouais.
Voilà. Donc, Céline, elle n'a pas à rougir. Elle est contente de terminer sa carrière, en tout cas avec l'équipe de France, mais malheureusement, elle n'aura pas été championne d'Europe. Ensuite... Alors, quelques petites rumeurs. J'aime bien les petites rumeurs. Rumeurs du foot. Alors, il y aurait des contacts qui seraient ouverts entre donc, le PSG et Ousmane Dembélé, qui est l'attaquant de Dortmund. Voilà, donc pour l'instant, il est un peu trop tôt pour imaginer des intentions précises des deux côtés. Mais peut-être que l'an prochain, on pourrait voir ce joueur arriver au PSG. Ils ont aussi lancé, on va dire, quelques rumeurs concernant des négociations qu'il y aurait entre Kylian Mbappé, qui a 18 ans et qui est de Monaco. Mmh. Donc voilà, affaire à suivre. Les transferts ne vont pas tarder. On va voir un petit peu ce que ça peut donner.
Surtout, ce qu'on regarde, c'est quand même le transfert de l'OM, parce que Paris Saint-Germain, c'est un peu les ennemis...
Jurés de l'OM.
Jurés de
Mais pour l'instant, l'OM, il y a rien, l'OM, rien ne filtre.
Ah si, il y avait Rami qui n'était pas loin de signer, puis après...
Ouais, mais ça, rien de confirmé quand même.
Ouais, mais...
Tu penses qu'il va venir ?
Je crois pas.
Ah, ouais.
Aux dernières nouvelles, il irait en Turquie.
Ah bah c'est pas le même endroit.
Avec Gomis.
Ouais. C'est un peu chaud la Turquie en ce moment. Hein. C'est vaut mieux qu'il vienne à l'OM. Hein. Bon, quoique l'OM, c'est... Bon, je ne dirai rien là-dessus.
Ouais, il doit faire venir quand même Germain.
Hein. Eh oui.
Germain, c'est la première recrue. Hein.
Bon, bah écoute, on verra un petit peu cet été, voir un petit peu ce que ça donne. Et puis le dernier... L'avant-dernier, alors je vais parler du dernier, le point important de ce week-end en dernière partie. Il y a eu le rugby à 15 ce week-end. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le match. C'était un test match contre l'Afrique du Sud. La France, elle a pris encore une raclée. 35-12. Ça ne va pas du tout. Laporte a mis un peu son grain de sel parce que malheureusement, l'équipe de France, il n'y a rien qui a changé depuis le changement d'entraîneur. Donc pour l'instant... Statu quo, en tout cas, je pense qu'il y aura de gros changements à la rentrée parce qu'ils ne peuvent pas commencer le tournoi de destination dans cet état-là. Donc, il va falloir faire quelque chose parce que là, 35-12 contre l'Afrique du Sud, ça ne va pas. Bon, passons à des choses un peu plus agréables. Paris 2024, ça vous parle ?
Ouais, c'est les Jeux Olympiques.
Jeux Olympiques. Alors, bon, Paris est en bataille contre Los Angeles. Tout sera décidé en septembre. Et puis ce week-end, donc c'était vendredi 23 et samedi 24, il y avait la journée mondiale de l'Olympique. Alors, c'était organisé à Paris le long de la Seine pour promouvoir la candidature de Paris à l'organisation des JO de 2024. Avec un duo de choc, je ne vous dis pas, sur le canoë, c'était Estanguet et Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ça valait la peine d'être vu. Ensuite, il y avait quand même 33 disciplines olympiques représentées.
Oui, ils avaient même mis une piste flottante, une piste de course d'athlétisme. Ouais. Une piste d'athlétisme flottante.
C'est ça. Et donc, c'était une piste de 100 mètres.
Ouais.
Et qui c'est qui a gagné cette course ?
J'ai pas vu les épreuves.
Ah ben c'est Tony Parker. Il est blessé. Teddy Riner.
Ah.
Bon, il a triché un petit peu.
Ouais.
Mais il a déposé sur place Marie-Josée Pérec, hein, qui est l'ancienne championne olympique.
Ça veut dire quoi, tricher ?
Ça a dû bouger.
Alors, paraît qu'il est parti un petit peu avant. Il a fait plusieurs petits faux départs. Parle près du micro, par contre. Et en fait, voilà, c'est vrai qu'il a un peu triché, mais il l'a reconnu.
Il l'a reconnu.
Il l'a reconnu, de toute façon.
Ça va, c'est sportif.
Il n'avait pas trop le choix.
Le ponton a dû bouger quand même, parce qu'il est gaillard. Hein.
Il est gaillard, mais la piste était magnifique. Et juste à côté, il y avait le plongeon avec deux plongeoires, un de 12 et un de 17 mètres. Par contre, c'était vraiment des démonstrations faites par des professionnels. Alors, il n'y avait pas que ça, hein, parce que comme on a dit que c'était la Seine qui était mise à l'honneur, il y avait les Invalides et à proximité de la Tour Eiffel, il y avait les sports de plein air, le rugby, le baseball et le tir à l'arc. Ensuite, au niveau du pont Alexandre III, il y avait un sautoir inauguré par le perchiste Renaud Lavillenie. Les pelouses de l'Esplanade des Invalides, qui vont accueillir le tir à l'arc donc en 2024, ont accueilli pour cette occasion le volleyball, le foot et le badminton. Et ensuite, à l'intérieur du petit palais, il y avait du trampoline. Et juste à l'extérieur, pour égayer un petit peu tout ça, parce qu'il y avait des courses de BMX et de VTT, il y avait des musiques urbaines. Voilà, donc vraiment un très très grand événement. Alors, Los Angeles a fait également une petite fête, mais beaucoup beaucoup plus modeste, en bord de mer, destinée aux enfants, donc on ne s'éteindra pas là-dessus.
On peut toujours espérer.
Comment ?
On peut toujours espérer gagner.
Ben, écoute, le résultat, en tout cas, c'est septembre. On verra contre Los Angeles, mais en tout cas, c'est vrai que globalement, les membres du CIO français ont donné une belle image de la France lorsque, on va dire, le groupe est venu donc, du
CIO. Pour inspecter, pour voir le site.
Pour voir le site, lorsqu'ils ont inspecté. On verra ce que ça donne. Ça sera en septembre, le verdict final pour 2024. Après, il y a les pour, les contre, mais si les Jeux ont lieu en 2024... Ben, ils auront lieu 100 ans après les précédents qui avaient lieu en 1924. Donc voilà, c'était pas mal. C'est un bel anniversaire.
Il y avait quand même que c'est la France qui les a inventés, hein, les Jeux Olympiques.
Eh oui. Mmh. Ben, pas forcément. Pourquoi ?
Ben si, c'est le baron Pierre de Coubertin.
Ouais, il les a remis au goût du jour.
Qu'ils a relancés, ouais.
Parce que sinon, c'était la Grèce.
Ben ouais.
Ils étaient en petite tenue.
Une Grèce antique, c'était les Jeux du Stade, ouais.
C'était le jeu du stade. Mais c'est vrai que Pierre de Coubertin...
les a remis à l'honneur. Ouais.
À l'honneur. Ben ouais, pourquoi pas. Je sais pas si t'en penses quoi, toi.
Ah, moi, je trouve que Paris à la côte en ce moment, que ce serait enfin pas mal.
Ce serait pas mal.
Ouais, ce serait pas mal.
Bon, ben, après toutes ces émotions, on fait une petite pause et on se retrouve juste après ça. Yo, I just started my sentence like a capital letter. Got bars for years, I hope you send me a letter. No, she'll never be queen, so now she got the vendetta. Talking about David when I say I'm a getter. 20 mil on my off season, of course. 20 million when you ain't put out no album or tours. Yes, bitch, I'm me. Pretty and icy. Get it icy, but my name spelled N-I-C. I feel like we're going under. Take me down. I can't help but wonder. You got everything I want. And if you keep on talking, I'ma put it where you want it.
Another life. Me, once in a lifetime. Only get it that thing right up out the darkness. Made that thing a starfish, right up on my swordfish. I'ma bring sparks in your favorite narcs. Ooh, you raise the bar, you take it far, you rate it R. But keep it tight, tight, take it, we go night-night. Go so far down, turn on you, I lose Wi-Fi, give me high five. Cause you know you gon' need a goon to come lick, lick your wounds. Got you lit like tick-tick-tick, like tick-tick-tick, tick-tick-tune.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc nous sommes de retour dans le studio de Capotracer. On est bien sûr en direct depuis le 102.2. Alors sachez qu'il y a une nouvelle application qui est sortie pour smartphone, iPhone, etc. Donc n'hésitez pas à la télécharger, vous pourrez nous écouter toute la semaine, 24h sur 24.
Partout.
Partout, hein, avec cette nouvelle application, ça marche. On
est écouté dans 72 pays avec rtvfm.net et avec l'application, on peut écouter partout.
C'est génial, hein ?
Ouais.
Voilà. Ensuite, pour l'émission RTV Sport, on peut nous réécouter bien sûr demain en rediffusion de 6h30 à 8h. Le podcast sera disponible. Oui, je remplace Alexandre, c'est lui qui habituellement qui le disait. Sera disponible dans la journée. Et puis avec bien sûr les adresses internet de nos invités, comme ça si vous souhaitez avoir des explications sur le club, les rendez-vous, tout, vous aurez tout sur le podcast. Donc justement en parlant de nos invités, on a la chance d'accueillir Stéphane Dahan, président des Archers de Saint-Siffrin. Ça fait combien de temps que Stéphane que le club existe ?
Ah, le club il existe depuis 33 ans.
Ah oui, 33 ans.
Ouais, 33 ans, c'est un vieux club.
Un vieux club.
Et on a un archer d'ailleurs au club qui est le responsable sportif qui était là à l'ouverture du club.
C'est le doyen ?
Non, même pas.
Même
non,
pas.
Non, il a commencé très très jeune. Non, 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 du tout. Non, non, il est pas. Ouais. Il est pas vieux.
Et il est pas vieux. Mais en tout cas, il a 33 ans de pratique du tir à l'arc.
Absolument. Ah, il avait peut-être commencé avant. Non, je crois pas. Je pense qu'il a commencé aux archers.
Ouais. Ah ouais, c'est impressionnant ouais. Quand même. Et donc, et toi, t'es président depuis combien de temps ?
Écoute, c'est une bonne question. Je pense que ça fait 4 ans. Peut-être 5. Partons sur 4.
Ouais, 4.
Je sais pas, je compte tous les jours. Mais
avant, t'étais pratiquant de tir à l'arc ou t'es tombé comme ça par hasard ? Alors souvent, quand on devient président, c'est parce qu'on a son enfant qui est adhérent du club. On demande aux parents de s'investir un petit peu et puis finalement, certains parents deviennent président.
Alors moi, dans mon histoire, non. Je dirais, j'ai fait du tir à l'arc quand j'étais ado. J'ai arrêté pendant longtemps. J'ai voulu reprendre en venant dans la région. Et voilà, donc je pratiquais, je suis devenu président du club et puis j'avais été précédemment président d'un autre club de sport, donc un peu rodé à ce type d'exercice.
Et tu pratiques toujours ?
Ah oui, carrément, ouais. Ah quand oui. J'ai le temps.
Et tu fais la compétition ?
Et malheureusement, cette saison, pas trop.
Pas trop ?
Pas trop. Mais non, pas trop.
Et justement, pour y voir un petit peu plus clair au niveau du tir à l'arc, est-ce que, comme dans beaucoup de sports, il y a des classements ? C'est-à-dire que, par exemple, en tennis, on a 31, 30, 15, 4, etc. Alors, est-ce qu'au niveau du tir à l'arc, c'est la même chose ?
Écoute-moi, si on pouvait m'expliquer le classement du tennis, un jour j'arriverai à comprendre. Tu vois, mes enfants font du tennis et à chaque fois je leur demande une explication.
C'est incompréhensible, voilà. c'est un truc de fou. Ouais.
Au tir à l'arc, en fait, à chaque compétition, on est la plupart des concours sont qualificatifs pour le championnat de France. Donc à chaque compétition, chaque archer qui fait au moins 3 compétitions a un positionnement dans le listing national. De toute façon. Donc, il n'y a pas de classification compliquée. Tu as un rang et qui évolue au cours de la saison en fonction de tes résultats sur chaque compétition. Les trois meilleurs scores étant pris à chaque
Donc, si tu es centième, tu es le centième meilleur tireur de ta catégorie.
En France.
En France.
Voilà.
Ah oh oui, c'est simple.
Ouais, c'est assez basique. Compréhensible.
Et tes meilleurs archers. Le nom, c'est archer, hein, c'est ça ?
Oui.
Les meilleurs archers, ils ont quel niveau, toi ?
Alors, écoute, là, tu sais quoi ? J'ai révisé avant de venir. Et là, tu me poses la question que j'ai pas révisé.
T'as pas regardé ?
Non, j'ai pas regardé. Je sais pas. Je sais pas parce qu'en plus, là, on est encore en
pleine
compétition. Donc, ça change en permanence. J'ai pas les résultats du dernier week-end, par exemple, pour l'instant.
Bah, donc, tu pouvais pas répondre à ma question de manière... Même si t'avais révisé avant.
Alors, ce que je peux te dire, quand même, c'est que par rapport à la saison sale, parce que tu sais qu'on a deux saisons, une saison en salle qui va jusqu'à mars. Et après, là, en ce moment, on est dans la saison extérieure.
Mmh.
Sur la saison salle, on a eu des archers qui étaient sélectionnés en France. Alors, on a deux catégories, le tir fédéral et le tir international, le tir FITA. D'accord. Pour te donner une idée, on a un cadet qui s'appelle Julien Sanz, dont on parlait un peu en aparté, là, qui était quatrième.
Ah, c'est le Mazané ?
Voilà. Le Mazané, ouais. Qui était quatrième au championnat de France. Dans sa catégorie. On a Emeric qui, l'année dernière, avait fait une excellente saison cette année et a un peu laissé la place à Julien. Il est 24e, ce qui est déjà très, très honorable.
Bah oui.
Et Benoît, dans la catégorie senior et qui est cet archer historique avec tout le poids du club sur ses épaules, était 45e. Et en.
Donc, après, ça, c'était en tir intérieur.
C'était le fédéral 2016. Donc, ouais. Celui de l'année dernière, la saison extérieure de l'année dernière. Et cette année, en salle, on a Claire, qui est senior, qui s'est classé 35e, et Jean-Denis, qui est super vétéran, qui s'est classé 22e.
Ah oui, c'est
donc
bien.
C'est quand même plutôt des résultats sympathiques.
D'accord.
Après, donc, leur place exacte à aujourd'hui, je ne saurais pas très bien.
Et justement, tu parlais de la saison donc, en salle et extérieure. Il y a vraiment une grosse variation, c'est-à-dire que tu as des archers qui sont super bons en salle, et d'autres, où non, ça s'équivaut.
Alors, il y a des archers qui vont préférer tirer en extérieur ou tirer en intérieur. On a aussi des archers qui, sur la saison extérieure, vont préférer avoir d'autres activités, comme du tir campagne, par exemple, et ne plus faire de concours sur cible. Tu vois, donc c'est une approche un
c'est
peu
C'est quoi
différente.
Le tir campagne ?
Le tir campagne, tu suis un parcours dans la nature, souvent boisé, même s'il existe des campagnes urbaines, c'est un peu différent. Et tu tires sur des cibles dont tu ne connais pas la distance. Alors, tu as des repères qui te permettent de dire, elle est située entre 20 et 40 mètres, par exemple, où elle est à entre 5 et 15 mètres, mais tu dois ajuster ton viseur à ton appréciation visuelle aussi. Donc, c'est vraiment une philosophie de tir différente. Et puis avec
ah, ça doit être dur.
Ouais, mais c'est très sympa. Parce que tu as une promenade bucolique dans les bois, souvent, c'est très agréable et ça se fait bien.
Et dans le coin, il y en a des de ces
oui, complètement. Piolet, ouais. Par exemple, en organisant tous les ans. Non, il y en a plein.
J'en ai vu à Sceaux, moi.
Pardon ?
À Sceaux, il y a un parcours.
Oui, oui. Et cette année, si je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un championnat du monde campagne qui est organisé à Robion. Je n'ai pas la date exacte.
Donc, ces tireurs-là sont quand même très expérimentés parce que ce n'est pas évident d'apprécier. Parce qu'en plus, ça doit se faire en extérieur. En extérieur, il y a quand même les conditions climatiques qui
absolument,
doivent jouer.
Absolument. Alors, ils sont très expérimentés comme des archers sur cible en extérieur. Hein. Les conditions climatiques vont jouer aussi. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui vont préférer la saison salle à la saison extérieure. C'est une approche différente et une pratique différente avec un
entraînement. Et toi, tu pratiques ce type de
campagne
tir ?
Ouais. J'en ai fait un pour essayer, juste pour voir, pour ma culture.
Et alors ?
Ouais, c'est super agréable.
Ah ouais ?
Ouais. Mais voilà, après, c'est toujours pareil. Je n'ai pas fait beaucoup de compétitions cette année, personnellement.
Et sinon, justement, en parlant de tir, quelles sont les différentes distances
alors,
dans les concours ?
Donc, très clairement, en salle, tout le monde est à 18 mètres, sauf vraiment les très, très jeunes, qui ont des arcs moins puissants et qui ont un peu moins de musculature. Mais on va dire, dans le schéma classique, on tire à 18 mètres. En extérieur, la distance peut varier suivant le type de tir, fédéral ou FITA. Et suivant la catégorie de l'archer, son âge. Hein. En gros, un senior en FITA va tirer jusqu'à 70 mètres, en fédéral jusqu'à 50 mètres.
70 mètres ?
Ça fait loin.
Ah oui, ça fait loin.
Ça fait loin.
Parce que l'arc, bah, il fait une sorte de courbe, c'est
alors,
pas droit.
Ça va dépendre un peu de ton arc et de sa puissance. Ouais. La parabole va être plus importante quand l'arc est moins puissant. Mm-hmm. Il faut un minimum de puissance pour arriver à 70 mètres. Donc c'est pour ça que là, on parlera plutôt des seniors et plus hein, qui vont pouvoir tirer à cette puissance. Les jeunes vont tirer à 30 mètres, par exemple. Et puis ça va dépendre aussi du type d'arme. Si tu as un arc classique, tu vas avoir une parabole un peu plus marquée que si tu as un arc poulie. Qui lui va avoir, on dit un trait, parce que la flèche se rapproche d'un trait direct jusqu'à la cible. Ce sont des arcs beaucoup plus puissants avec une démultiplication qui permet de ne pas avoir toute la puissance sur la phase d'attente. En fait.
Et toi, François, tu as déjà pratiqué le tir à l'arc ?
Non. J'ai déjà vu un peu des compétitions. Je m'intéressais un peu à tout, moi, même à la télé, aux Jeux Olympiques. Non, et quand il parle de trait, justement, ça me fait penser à l'arbalète. Parce que la flèche de l'arbalète, on dit que c'est un trait, non ?
On dit que c'est un trait, oui.
Parce qu'elle est une. C'est rectiligne.
Je ne sais pas d'où vient le nom. Je ne sais pas d'où vient l'origine du nom. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Hein. Je pense qu'on appelait ça un trait ou un carreau. Je pense que c'est plus une origine historique, mais je ne l'affirmerai pas.
Et sinon, par contre, quand tu parlais d'arc à poulie oui. ou les autres types d'arcs, je pense que chaque archer va concourir. Si un a un arc à poulie, il va forcément concourir avec des archers qui ont des arcs à poulie. À poulie, pas poulie,
alors,
mais à poulie.
Sur une même cible, par exemple, sur le concours qu'on va organiser prochainement, il y aura des archers classiques, il y aura des archers à poulie, il y aura peut-être des gens qui tirent à l'arc nu, hein, sans viseur, sans stabilisation.
Mais ils seront dans les mêmes catégories, ils ne vont pas se mélanger. Si ? Ils peuvent se mélanger.
Le classement national va se faire catégorie par catégorie. Maintenant, sur une même cible, dès lors que les blasons sont identiques et que la distance est identique, on peut trouver des archers d'armes différentes.
Ah oui.
Sur une cible, on ne tire pas contre son adversaire de cible, en fait. Hein. Et c'est un peu le propre de ce sport, c'est que finalement, on concourt contre soi-même. On cherche à améliorer avant tout son propre score, ses propres résultats, sa propre performance. Alors, des fois, le voisin influence un peu sur notre propre comportement, mais je dirais la beauté du geste, c'est d'arriver à faire abstraction de son entourage. On tire pour soi.
D'accord, mais par contre, tu dis... est-ce qu'un arc à poulie, justement, n'a pas plus de qualité qu'un arc nu ?
De qualité ?
Oui, c'est-à-dire en termes de précision, en termes de...
Moi, je tire en arc à poulie, donc si je te répondais là tout de suite, oui, on a plus de qualité, je serais pas objectif.
Parce que tu disais tout à l'heure que l'arc à poulie, je crois, fait une sorte de ligne droite.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que tu as plus de chances de viser facilement ta cible. Si tu es obligé de faire qu'un arc de cercle, tu es quand même obligé de prendre des paramètres que tu n'as pas forcément...
Ta flèche, elle a un comportement. Mais après, le comportement de sa flèche, il est inhérent à la flèche et à ton type d'arc. Ta visée va faire la qualité de ton tir, quelle que soit la déviation de la flèche. Cette déviation, elle est régulière, de tir en tir.
Oui, mais c'est vrai que ça m'interpelle un petit peu. C'est après, un peu comme le tir pistolet, le tir fusil, si tu veux. C'est un peu le même système. C'est-à-dire que si tu vas... Ton arc, on va dire... Ton arc de cercle, tu es obligé par exemple de tirer plus haut pour arriver plus bas, non ?
Certes, mais ça c'est un problème de réglage de ton arc et de ton viseur.
Ah oui.
Après, pour répondre complètement à ta question, là par exemple sur le concours qu'on va organiser, il y a des remises de récompenses avec des podiums. Il est évident que sur un même podium, on va trouver que des gens de la même catégorie d'armes et de la même catégorie d'âge. Hein ? Donc chacun tire pour soi. Néanmoins, sur le concours, il y aura un podium avec un premier, un deuxième, un troisième. Par catégorie d'âge et d'armes. On ne va pas mélanger. Et globalement, on va voir des scores différents par tranche d'âge, par tranche d'âge ou par tranche d'armes, globalement sur les concours. Donc effectivement, les points en poulie sont un peu plus élevés, d'accord ? Mais on va retrouver une classification par poulie, une classification pour les classiques. Et donc le seuil haut est différent en fonction de l'arme.
Alors, dans une minute, on va faire la pause musicale. On va continuer justement à parler de cette compétition qui aura lieu le week-end prochain. Au niveau du club, les enfants, vous les acceptez à partir de quel âge ?
On les accepte à partir de 10 ans. Parce que, et c'est peut-être plus une contrainte propre au club, on a des entraînements qui durent 2 heures et c'est difficile pour un enfant plus jeune de rester concentré et efficace sur une si longue durée. Donc, c'est pour ça qu'on met l'accueil à partir de 10 ans et sans limite d'âge supérieur.
Sans limite d'âge. Et concernant le lieu d'entraînement, c'est à quel endroit ?
Alors, on reprendra la saison à la salle Carnot, qui est sous la salle de boxe près du Leclerc pour la saison salle. Et en saison extérieure, on s'entraîne au stade Coubertin, où on a un magnifique pas de tir.
Très bien. Bah, écoute, on fait une petite pause et puis on parlera aussi des horaires d'entraînement. Ouais. Allez, à tout de suite. All my faith, all my love, in a pile, lighted up, things I burn. To keep you warm, and in the storm, I'll never let you go. Oh, I'll never let you go.
Yeah. drop of joy is washed away.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Nous sommes en direct sur le 102.2 depuis le studio de Carpentras-Serre et j'ai la chance d'avoir tous mes invités de réunis parce que c'est vrai que certains, pour des obligations professionnelles, ne pouvaient pas être là à 18h30, mais je suis vraiment heureux d'accueillir. Alors, on parlait il y a quelques instants de tir à l'arc avec Stéphane Dahan. Rebonsoir Stéphane.
Rebonsoir.
Président des Archers Saint-Siffrin. Et on parlait justement du club et on va parler de l'événement de ce week-end. Ensuite, en deuxième partie d'émission, je vous ai parlé de Rudy Andrieux. Bonsoir. Pas rebonsoir, parce qu'on ne s'est pas vu tout à l'heure. Bonsoir Rudy.
Bonsoir à tous.
Tu vas bien?
Très très bien, et vous?
Ben super, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Tu es éducateur sportif et entraîneur au sein du motoclub Ventoux Loisirs Saint-Ponchon. Et on va parler du 8e trial urbain, déjà 8.
Déjà, le 22 juillet.
22 juillet, justement, on va pouvoir développer parce qu'il y aura quelques nouveautés. Et puis j'aurai quelques questions sur l'emplacement des aires d'évolution. Mais on en parlera justement tout à l'heure.
Aucun problème.
Et enfin, en dernière partie d'émission, on parlera de l'Office municipal des sports de Mazan qui est très très dynamique. Et qui organise la troisième fête du sport en famille. Pour en parler, je suis avec même une bible du sport, parce que franchement, il est incollable dans les sports, il s'intéresse à tout, c'est François Richy. Salut François.
Bonsoir à tous.
Non, sérieux, c'est vrai. C'est...
Non, c'est, j'ai l'avantage d'avoir une bonne mémoire, et je mange régulièrement du poisson.
Et des épinards.
Et des épinards aussi, oui.
Bien sûr. Pour la mémoire. Mais en tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous, co-président de l'Office municipal des sports de Mazan. Et le deuxième, c'est Robert Michel, qui est le deuxième coprésident.
Tout à fait.
C'est une spécificité quand même, Amazon.
Ouais, parce ouais, je crois qu'on a innové, parce que je suis aussi coprésident du comité de jumelage. Donc on est deux présidents.
T'es même partagé les responsabilités?
Ben non, on partage pas la responsabilité, on partage surtout les temps libres. Et c'est moins de contraintes d'être deux.
Mais justement.
On s'entend bien.
Ben on va en parler en dernière partie d'émission, tiens. Alors, justement, on revient au tir à l'arc. Donc, tu m'as dit que tu avais regardé les Jeux Olympiques avec le tir à l'arc, mais effectivement, on n'avait pas, t'avais pas pratiqué. Donc, tu vois, grâce à Stéphane Dahan, tu vas peut-être pouvoir pratiquer. On parlait donc, rappelle-nous juste les endroits d'évolution, parce que ça va changer, je crois. Hein, c'est ça, la rentrée prochaine?
Ah non, non, non.
Non, ça va changer,
Non. On reste sur une saison salle qui démarre à la salle Carnot.
Non, oui, salle Carnot, d'accord.
Alors, j'ai pas compris ta question.
Oui, non, c'est bon.
Et saison extérieure, on passe à Coubertin. Puisqu'on a un beau pas de tir sur le complexe sportif de Coubertin. Mais ça a toujours été comme ça.
Ça a toujours été comme ça.
Enfin, depuis un moment, et on continue comme ça.
Absolument. Impeccable. Les horaires?
Alors, les horaires, on a des entraînements tous les soirs. Je ne vais pas te donner les horaires précis, mais en gros, tous les soirs, à partir de 18h, on a des entraînements ou des tirs libres. Hein. Passé à un certain niveau, les archers peuvent venir s'entraîner par eux-mêmes en plus de leur entraînement. Le mercredi après-midi, on démarre plus tôt pour les jeunes. Le samedi après-midi également. Et pour les débutants en général, c'est bon à savoir, on les accueille le samedi à 14h, juste après le forum des associations. D'accord ? C'est là qu'on démarre la saison.
Et la durée d'un entraînement ?
Il faut compter 2 heures. 2 heures, c'est
2 heures ?
Ouais.
Et c'est vraiment que du tir ou il y a quand même quelques éducatifs ? Parce que comment on fait pour progresser en tir à l'arc ?
Bon, on a des entraîneurs hein, qui sont des entraîneurs fédéraux, donc ils sont là pour corriger et pour poser les bases. Et après, après la progression... On dit qu'un bon archer, il tire beaucoup de flèches quand même. Donc je pense que ça passe surtout par la pratique avec un regard extérieur.
Un regard extérieur.
Ouais.
Alors justement, ce week-end, il y a un événement important.
Oui.
Mais un événement important, d'autant plus important que cette saison a été une saison, on en parlait tout à l'heure en début d'émission, impressionnante avec de super résultats.
Alors c'est ce que je te disais au début, est-ce que cette saison a été impressionnante ou est-ce qu'on a mal communiqué les autres saisons?
Ben je ne sais pas, mais en tout cas, nous à chaque fois on donnait de bons résultats concernant les archers.
Mais on a globalement de très très bons résultats et j'ai préparé une petite synthèse. Hein. Tu vois par exemple, pour parler de la saison salle, on a 98 archers qui se sont déplacés là pour des concours qui sont organisés dans la région pendant la saison salle.
Sur ces 98 archers, on a eu 43 podiums, dont 16 premiers podiums et 19 deuxièmes.
Ah oui, c'est bien. C'est 50% pratiquement.
Ouais, c'est plutôt très très honorable. Sur la saison extérieure qui est toujours en cours, à ce jour, en FITA, on a 4 premiers podiums et 6 deuxièmes podiums.
Donc FITA, c'est la Fédération Internationale.
C'est ça. Donc ce sont des...
C'est du haut niveau quand même.
Oui, en général, les critères sont un peu plus resserrés. C'est-à-dire soit on tire plus loin, soit sur des blasons plus petits qu'en fédéral.
D'accord.
Donc c'est un peu plus haut niveau. Et en fédéral, c'est pareil, on a 7 premiers podiums, 7 deuxièmes podiums et 6 troisièmes, tu vois, pour l'instant. Avec, encore une fois, de bons résultats, puisqu'on a, par exemple, Julien Sens, dont on parlait, qui est champion de Ligue cette année. Gérard, qui est un super vétéran, qui est vice-champion de Ligue également, donc Ligue régionale. Hein. En FITA, on a Denis, qui est en super vétéran, qui est premier au départemental. Jean-Denis et Jean-Luc qui sont troisième en départemental. Et en fédéral, Julien à nouveau qui est premier au championnat départemental. Gérard dont on parlait qui est à nouveau deuxième au départemental. Et alors intéressant, Sabrina qui est une archère de l'année. Tu vois, on parlait du début de la compétition. Mmh. C'est une jeune archère qui est cadet, qui a démarré cette année et qui a quand même fait deuxième au championnat départemental jeune.
Oh, c'est donc une très belle performance.
Ouais, très très belle performance.
Les féminines, elles sont présentes dans le tir à l'arc?
Oui, quand même, oui. Ouais, on a une belle parité.
Une belle parité? C'est vrai qu'on parle beaucoup des hommes, allez, mais pas forcément de femmes au niveau du tir à l'arc.
Parité, on va dire un tiers, en tout cas chez nous.
J'ai une question, moi, pour les féminines, elles ne sont pas gênées par leur poitrine?
Bah, pas plus, tu sais, que les hommes qui ont une petite bedaine en vieillissant. Hein,
c'est vrai que nous, on ne connaît pas trop la bedaine.
Ça se gère. Après, il existe différentes protections au tir à l'arc, notamment un brassard sur le bras, tu vois, pour le passage de la corde.
Le frottement.
Et également un plastron pour protéger soit la poitrine féminine, soit les gros pecs des messieurs.
D'accord.
Et une autre petite question, la vitesse de la flèche?
Ça dépend complètement de l'arc, du type d'arc et de sa puissance.
En moyenne?
Facilement 200 km/h, ouais.
Ah oui, donc vaut mieux pas se trouver sur le trajet, quoi.
Non, il vaut mieux pas.
Sinon, même en courant vite, c'est compliqué.
Il vaut mieux pas, et même quand tu te trouves un peu sur le côté, tu entends le sifflement de la flèche qui passe. Je devrais pas le dire, mais c'est impressionnant.
J'imagine.
Je crois que c'est aux Jeux Olympiques, ils affichent la vitesse, il me semble.
Ah, c'est possible, je sais pas.
C'est comme au tennis.
La flèche, ouais.
D'autres résultats, c'est bon?
Pour les résultats, là, c'est pas mal.
Bah, même, c'est très très bien. Donc, ce week-end, il y a donc cette compétition, donc c'est FITA et fédéral.
Alors c'est un peu plus compliqué puisque traditionnellement on organise un concours à la fois qualificatif, hein, donc pour le championnat de France en FITA et en fédéral sur les deux disciplines. Mais cette année en plus, on l'était déjà, mais on est support de la troisième manche de division régionale. C'est-à-dire que les clubs qui vont se qualifier vont partir en championnat de France et pourront passer en D2.
Ah oui, donc c'est un haut niveau.
Oui, il y aura des archers là de toute la région et il faut savoir que notre fédération a réarrangé un peu les ligues et qu'aujourd'hui on est passé donc d'une ligue Provence à une ligue PACA complète. Donc il y a énormément d'archers qui sont attendus. Cette troisième manche de DR se fait par équipe et ça on va le bloquer sur tout le dimanche avec des matchs l'après-midi. Donc j'invite les gens qui veulent venir voir, ça va être très ludique. Il y a des tirs individuels le matin et des matchs par équipe l'après-midi qui sont en général plus animé, avec de la musique, avec des fois des encouragements un peu violents des équipes. Enfin, c'est un peu plus, un peu moins académique, on va dire, et un peu plus ludique même à regarder, je pense.
Mais tu parlais du dimanche, mais il y a également le samedi.
Alors, le samedi, on va faire les tirs fédéraux et FITA. Le dimanche matin, ce sera également un qualificatif FITA, puisque le classement par équipe se fait dans la catégorie FITA. Et l'après-midi, par contre, il n'y aura que les matchs.
Et tu parlais, beaucoup d'archers sont attendus. Est-ce que tu sais, tu as une estimation du nombre d'archers prévus?
Écoute, pour l'instant, en tout cas sur le dimanche, on a prévu 24 cibles. 24 cibles, ça veut dire 24 équipes de 3 personnes. Et pour le samedi, j'espère qu'on sera complet. Et donc, les 24 cibles seront complètes matin et après-midi. Normalement, c'est ça.
Donc, ça va se dérouler donc, à votre lieu d'entraînement normal?
Non, pas du tout. On va faire ça au stade de la Roseraie, qui est magnifique, qui s'y prête bien, qui a une belle tribune. Et on organise d'ailleurs traditionnellement ce concours de juillet plutôt à la Roseraie.
D'accord. Et est-ce que moi je t'ai coupé la parole, tu allais dire au niveau de...
On attend, j'espère, entre 150 et 200 personnes sur le week-end.
Ah oui. Et donc le fait que vous fassiez ça au stade de la Roseraie, comme il y a des gradins, on peut être...
Alors les gradins ne seront pas forcément ouverts, par contre il y a une zone derrière qui est réservée au public et qui permet complètement d'arriver, de s'installer, de regarder. Et il y aura une buvette, enfin bienvenue, l'entrée est libre et de 9h à 18h samedi et dimanche.
On continue?
Oui. Alors on va manger un peu, mais...
Et des archers de chez toi, il y en a combien de prévus? engagé. Alors,
j'ai pas les dernières inscrits parce que ça va aller jusqu'au bout, mais je pense qu'on sera nombreux. Traditionnellement, on est tout le temps entre 20 et 30. Ouais.
Ah oui, donc et les archis qui sont éventuellement potentiellement qualifiables pour
on
les Jeux de France.
On présente deux équipes cette année, nous. Une équipe en classique senior homme et une équipe en poulie. Donc c'est la première fois qu'on présente une équipe en poulie. Moi, je me suis un peu blessé, j'ai dû me défausser de l'équipe, mais l'équipe reste présente et on va pouvoir présenter ça, donc c'est bien.
Donc tu vas les encourager.
Absolument.
Très bien. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup Stéphane en
président. Je voulais juste rajouter petite chose par rapport aux inscriptions, et c'est un point important. Cette année, on est partenaire de la carte jeune de Carpentras. Et donc, si ça peut faciliter l'adhésion aux jeunes, avec la carte jeune, évidemment, il y a des remises. Enfin bon, peu importe les détails. Mais en tout cas, sachez qu'on est partenaire de la carte jeune de Carpentras aussi.
Voilà, c'est une carte qui est vraiment intéressante, hein, qui concerne les jeunes de 12 à 25 ans.
Exactement.
Et qui permet voilà, de bénéficier de tarifs préférentiels. Et donc, aux archers de Saint-Siffrin, vous proposez donc des tarifs préférentiels.
Entre autres.
Entre autres.
Voilà.
Plein d'avantages.
Absolument.
Donc tous les renseignements sur le site internet des Archers Saint-Siffrin, je le mettrai bien entendu sur le podcast. En tout cas, merci beaucoup Stéphane Dahan d'avoir accepté notre invitation. Bonne compétition pour ce
merci
week-end.
Beaucoup.
Et puis on aura l'occasion de continuer à vous suivre la saison prochaine.
Mais avec plaisir, et n'hésitez pas à passer ce week-end en tout cas.
En tout cas, le rendez-vous est pris. Hein, François, dimanche, tu pourras peut-être passer pour te détendre de ton événement de samedi.
C'est compliqué, mais je passerai bien à lui.
Bon.
Un petit moment, c'est compliqué pour moi.
Allez, on fait une petite pause, à tout de suite.
sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
De retour dans le studio, on vient de parler de tir à l'arc. Maintenant, on va faire de la moto avec Rudy Andrieux. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Rudy.
C'est toujours un plaisir de venir.
Ben, ça nous fait très très plaisir. En plus, tu sais que c'est la 122e émission et la dernière de... Tu n'as pas fait 120. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de te recevoir. Alors, le club, c'est le Moto Club Ventoux Loisirs Saint-Ponchon. C'est vrai que c'est un peu long.
Oui.
Et on le réduit à Ventoux Loisirs Saint-Ponchon.
Ventoux Loisirs.
Ventoux Loisirs.
Club Ventoux Loisirs.
Passe à parler près du micro. Tu peux le lever, en fait. Hein. Il ne mord pas. Donc, le Ventoux Loisirs, c'est un club qui date depuis longtemps.
Depuis avril 2011.
Ah, et c'est tout récent.
Oui. Bah, ça va faire la sixième année.
Sixième année. Mmh. Et avant, tu...
Alors, pendant 10 ans, j'ai été salarié d'une école de pilotage moto à Pertuis.
Ouais.
J'ai fait mes bases, mes gammes là-bas.
Et tu faisais quel type de moto? Parce qu'il y a différents types de motos. Tu as la moto de route, la moto de cross.
Alors, c'est essentiellement, enfin, c'est à 100% la moto, enfin, les pneus qui touchent la terre. Ce sont des motos tout-terrain. La route, je ne touche pas.
Tu n'as jamais fait
Sur circuit, uniquement.
Donc, tu ne suis pas le Grand Prix moto
si. Je suis passionné de moto.
Avec Marquez,
suis...
tout
non,
ça
non, je suis, mais je connais même Johan Zarco, j'ai échangé plusieurs fois avec lui, mais je n'enseigne pas cette pratique-là.
D'accord.
Voilà, ça n'a strictement rien à voir.
Donc,
c'est comme si
un...
tu compares le basket et le hand. C'est un sport où c'est un sport de balle où il suffit de taper sur un ballon. Mm-hmm. Si tu compares le basket et le hand, mais c'est comme si tu compares la moto de vitesse et le motocross.
Mais par contre, il y a une épreuve qui est un peu des deux, c'est le super motard, non?
C'est le super motard, oui, effectivement. Ouais, mais...
On en avait des bons chez nous,
oui.
Qui sortent de chez nous.
Oui.
Et
il y a même eu une course à 43. Hein.
Ah oui,
ouais, champion de France super motard dans les années 2000-2002, je dirais. À l'hippodrome.
À l'hippodrome, ouais.
Donc là, en fait, c'est on prend les deux types de motos, de motards. Et on les met sur circuit pour voir qui est le meilleur.
Alors, il y a un mélange, oui. Il y a un mix de terre et de bitume. Par contre, les motos, ce sont des motos qui viennent de la filière motocross quand même. Ce n'est pas un guidon bracelet, ça n'a rien à voir. C'est quand même beaucoup plus spectaculaire.
C'est la pneumatique qui change un peu.
Aussi.
T'as pratiqué un peu ce...
Ça, non, jamais. C'est la seule chose que j'ai jamais fait. Je n'ai jamais participé à une course de supermotard ou à un entraînement de supermotard. Par contre, rouler sur un circuit de vitesse avec une moto de vitesse, oui. Mais du supermote, jamais.
Tu suis un petit peu le championnat du monde là, de moto avec Marquez, Zarco.
Le week-end dernier, enfin dimanche, hier d'ailleurs. Où
Zarco,
Rossi...
14e.
Ouais.
Et ouais, Marquez, il a bien tourné, Marquez.
Il a fait la pole et après il a fait 14e.
C'est ça. C'est ça.
Et bah...
ouais. Il y a une belle bagarre entre Rossi et Zarco à un moment donné. Hein.
Ouais.
Ah, même toi, François, tu suis. Hein.
Mais c'est un motard invétéré.
J'ai jamais fait de la moto. Moi. Mais alors, je suis une.
Toi, tu es sur les 4 roues. Hein,
zéro et je retiens rien. Moto, j'ai fait de la mobilité, c'est tout ce que j'ai fait. Bon,
alors,
je m'intéresse à tout.
On va revenir au club donc, de Saint-Ponchon. Donc, date de création 2011.
Pour les vacances de Pâques, en 2011 exactement.
Et à l'initiative de qui?
En fait, pendant 10 ans, j'ai fait les allers-retours tous les jours, Carpentras-Pertuis. Ça commençait à me peser un peu et j'ai dit pourquoi pas, il faudrait essayer, ça n'existait pas dans la région à l'époque, de créer... cette filière-là pour enseigner et transmettre mon savoir. Et tout simplement, la mienne et de Fabrice Jourdan, le président. On était deux.
Parce que Fabrice, il a pratiqué de la moto avant aussi?
Oui, bien sûr. Lui, il a fait les premiers tours. Il a participé aux premières courses éducatives qui existaient en France. C'était le Minicross de Provence et c'était dans les années, je dirais, 78-80.
Ah,
les
oui.
Premières courses, il les a faites. Il y avait Jean-Michel Ball à l'époque, tous les jeunes, Christian Chaumard, ils y étaient tous.
Et, ouais.
Et ils roulaient avec.
Ah, donc on a des stars au Ventoux Loisirs en tout cas.
Ah oui.
Donc Fabrice, si tu nous entends, on te salue.
Il travaille.
Mmh. Bon, sinon, on l'excuse, hein, parce que je sais qu'à chaque fois, il répond présent. C'est comme toi, dès qu'on vous demande, si vous n'êtes pas là, c'est parce qu'il y a un événement qui est indispensable. Parlant justement de... Donc, les entraînements ont lieu à Saint-Ponchon.
Oui, tous les mercredis et tous les samedis, sous forme de cours qui durent 1h15. Donc, il y a le mercredi après-midi et le samedi toute la journée.
Et les enfants, ils peuvent venir à quel âge?
À partir de 6 ans. Et, il n'est pas nécessaire de venir avec son matériel. Je fournis tout. C'est-à-dire, ça inclut le matériel de sécurité, casque, gants, genouillères, coudières. Évidemment, la moto adaptée à la taille de l'enfant.
Ça, c'est important parce que c'est vrai que c'est j'ai eu l'occasion justement d'accueillir les membres qui s'entraînent à côté de chez toi. C'est le karting qui, eux, justement, ils prêtent un karting pour essayer. Mais après, c'est vrai qu'il faut acheter sa machine. Et c'est vrai que c'est un budget énorme.
Ah oui.
Et alors que le fait que toi tu prêtes tout, c'est non négligeable.
Oui, c'est beaucoup plus accessible, oui.
Ah bah oui, beaucoup plus.
Il n'y a pas l'entretien derrière, enfin c'est...
Et justement, alors, je vais encore retourner le couteau dans la plaie. T'as un circuit de kart à côté.
Oui.
Je sais qu'il y a eu des courses de moto, il y en a tous les ans, qui sont organisées régulièrement. Ça t'a pas donné envie de te dire, pourquoi pas essayer de créer, bah, de rajouter cette option à ton club?
Bah, je suis déjà
bien occupé.
Au four et au moulin.
Ouais.
Donc, je vais rejoindre mon précédent ami là tout à l'heure. Je ne vais pas rajouter une autre corde à mon arc.
Ouais.
C'est déjà compliqué à tirer toutes les flèches. Et peut-être plus tard, oui, mais pas dans l'immédiat.
Parce que tu as combien d'adhérents à peu près?
Alors, par semaine, je vais avoir une quarantaine d'enfants, mercredi et samedi confondus.
Ah oui, donc tu as des semaines bien chargées.
Ah oui, j'ai 2 cours le mercredi et 4 le samedi. Donc, ça fait 40. Des abonnés qui viennent de manière régulière, tous les mercredis et tous les samedis. Et après, les dimanches, je fonctionne avec des compétiteurs et je navigue sur différents terrains de motocross dans la région. Là, si tu veux, c'est un peu la filière compétition. À l'hippodrome, c'est l'initiation confirmée. Et le dimanche, je suis avec des compétiteurs qui, eux, ont par contre leur moto et ce sont des motos de compétition. Et après, il m'arrive aussi de faire d'encadrer des balades en enduro et en trial.
Mais par contre, on parlait justement de l'âge de début des enfants, mais tu peux prendre quelqu'un jusqu'à quel âge à Saint-Penchon? Il y a un âge maxi?
Une contre-indication médicale, je dirais. Après, c'est vrai, il est certain que c'est un sport qui demande une certaine souplesse et un physique quand même. Donc, s'il arrive à courir, s'il arrive à faire un tour d'hippodrome en courant, il peut faire de la moto sans problème.
Donc, en fait, t'as même des adultes avec toi?
Bien sûr. Alors, c'est moins fréquent, ils sont moins réguliers. J'en ai, oui.
Et par contre, aussi, ce que tu proposes, et ça, c'est pas tous les clubs qui le font, et c'est important de noter, c'est que tu proposes de proposer des petits circuits pour des anniversaires, des fêtes de village.
Avec une structure gonflable.
Comment ça se passe? C'est-à-dire, comment on prend contact avec toi? Oui, François, on va parler de ton événement
mais
après.
Non, mais j'y suis,
et je sais qu'il y est. Ben oui, je sais qu'il y est, c'est pour ça. Mais justement, comment ça se passe?
Je me déplace donc avec une structure gonflable. C'est à la demande. C'est une structure gonflable qui représente 200 mètres carrés à peu près. C'est 20 mètres par 10. Mmh. C'est un boudin qui est gonflé en permanence, qui fait une hauteur d'environ 1 mètre. Les enfants évoluent en toute sécurité à l'intérieur. Et si on veut faire découvrir l'activité à un maximum d'enfants, cette formule est géniale. C'est-à-dire que les enfants, ils s'initient pendant 5-10 minutes. S'ils perdent le contrôle de la moto, automatiquement, il y a le boudin qui l'arrête. C'est au top du top pour ça.
Donc, j'ai envie de faire un anniversaire. J'ai mon fils, il a des copains, des copines. J'ai envie d'essayer ça. Sans problème, tu viens chez moi.
Bien sûr.
Après, mais voilà, il faut un grand terrain, non?
Voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait au moins 200 mètres carrés.
D'accord. Et si je n'ai pas 200 mètres carrés, on peut le faire à Saint-Branchon?
Ah, vous venez à l'hippodrome, je n'ai pas besoin de la structure gonflable.
Parce que tout est prêt là-bas?
Oui.
Oh, c'est génial, ça.
J'ai deux terrains. J'ai un terrain éducatif, c'est-à-dire une surface plane qui fait environ 2 terrains de foot. Et après, une surface avec du relief pour les un peu plus confirmés, avec des bosses, des virages et toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur un terrain de motocross.
Et tu te déplaces sur quel secteur géographique?
Dimanche dernier, j'étais à Digne-les-Bains.
Ah oui, donc voilà. 200 km, pas facile.
Oui, sans problème.
Très bien. Bah, écoute, on fait une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après pour parler de ce trial urbain. Et c'est pas une nouveauté, c'est la 8e édition. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a du monde à ce trial? Allez, à tout de suite.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc toujours avec Rudy Andrieux, entraîneur et éducateur sportif du club Le Ventoux Loisirs. On parlait justement des différentes possibilités d'entraînement chez toi. On va parler du trial urbain qui va être organisé en juillet. Tu proposes du trial dans ton club ?
Oui, du trial en randonnée et aussi en initiation dans la montagne avec des zones naturelles.
Donc là, le 8e édition quand même du trial urbain de Carpentras avec un monde fou.
Un monde fou, et puis c'est surtout un plateau qui est extraordinaire, qui réunit les meilleurs pilotes au monde, si vous voulez. C'est comme si l'Open de Carpentras, je connais très bien le président, hein, je ne me moque pas de lui.
Oui, bien sûr.
Il y avait Wawrinka, Andy Murray, Nadal et Federer qui venaient jouer sur le terrain de tennis de Carpentras.
Ah oui, non, mais c'est impressionnant.
C'est gratuit, les gens viennent les voir gratuitement, et ça ne compte pas pour
un
championnat ATP, c'est une démonstration.
Et ils répondent tout le temps présent.
Oui, à partir du moment où on les paye, oui.
Oui. Parce que je sais que c'était l'an dernier ou l'année d'avant, ça avait été un petit peu compliqué pour eux parce qu'ils avaient des compétitions juste derrière. Et il y en a même certaines qui ont roulé la nuit, je crois.
Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Alors là, ben, nous, cette année, malheureusement, il y a deux animations en même temps à Carpentras. Il y a le Colors Festival et le Trial. Depuis le mois de décembre, on a les plannings des différents championnats. PEC, les plannings des différents DJ et la seule alternative pour lui, c'était ce week-end-là. Et pour nous, c'était aussi celle-ci. Donc,
La journée, ils sont chez toi jusqu'au soir et ils finissent la soirée.
Après, c'est toute la logistique pour les lumières, l'éclairage. Ça demande énormément de travail au service technique. C'est compliqué quand même. C'est
compliqué.
Ouais.
Alors, donc, on va parler donc de notre trial urbain, trial international avec, comme tu disais, des pilotes de renom. Il y a des nouveaux cette année ?
Il y a la même équipe, toujours. Il y a Tony Bou, Adam Raga, Albert Cavestani, le japonais, Takahisa Fujinami, le prochain champion du monde dans quelques années, c'est la perle du Pays Basque qui s'appelle Jaime Busto. Lui, il deviendra grand et il est entraîné par Tony Bou, le champion de tous les temps qui détient 21 titres de champion du monde.
C'est impressionnant.
Et là, il a 32 ans.
Et ce petit jeune, il a ?
Il a 17 ans.
17 ans ? Donc ça promet alors ?
Oui. Et ce sont tous des Espagnols.
Ouais. Ah oui, mais ça, justement.
Ouais, tous.
Mais pourquoi ? Parce que l'Espagne, c'est un pays de prédilection pour. Ils ont des facilités d'entraînement ?
Oui, et puis il y a une réglementation qui diffère. Par exemple, elle est similaire aussi à l'Italie. Elle diffère par rapport à chez nous en France où il n'y a pas de limite de cylindrée pour les jeunes. Un trialiste français, jusqu'à 16 ans, devra rouler en 125. Alors qu'en Espagne, à 12 ans, il roulera déjà sur un 300 cm3. Donc ça crée... Mais d'ailleurs, même les Français s'expatrient en Espagne et ils font le championnat espagnol pour essayer de rattraper un peu l'écart qui s'est creusé depuis de nombreuses années. Mais la vitesse, c'est pareil aussi. Les jeunes Marquez et tout ça, depuis des années et des années, ils roulent sur des motos ultra puissantes. Alors que chez nous, on est
limité.
Ouais, complètement.
Et donc, les motos utilisées, c'est tous des 300 cm3 ou il y a encore plus puissant ?
Non, 300.
Bah, 300
ou
mal,
310 cm3. Oui.
Mais bon, c'est déjà pas mal.
Beaucoup de motos espagnoles, hein, en plus.
Oui, essentiellement.
Il n'y a qu'une marque française, je crois.
C'est la Sherco.
Voilà.
Ouais. Et c'est le français qui roule dessus. C'est Alexandre Ferrer qui habite à Aix-en-Provence.
Ouais.
Et Albert Cabestany, notre espagnol aussi, qui a été champion du monde.
Bah, tu vois, la France est un peu présente quand même dans le trial. Mais bon, après, c'est vrai que les Français, on n'en voit pas trop.
C'est cyclique, le trial. Il y a, dans les années 80, on a organisé des manches de championnat d'Europe à Madan. C'est pas si vieux que ça.
Hein.
Mais non, c'est pas vieux.
Dans les Anges, etc. Notre-Dame-des-Anges, etc.
C'est
moi, j'y étais, je faisais commission.
T'as connu Rudy ?
Enfin, j'en ai entendu
petit,
parler.
Hein.
Oui.
Mais même à Mormoran aussi, il y en a eu.
Donc, on va revenir à Carpentras. Donc, l'an dernier, il y avait combien de pôles d'évolution ?
Alors, il y en avait 5.
Il y avait où,
non,
alors
je dis une bêtise. Alors, je vais tous vous les dire.
Ouais.
Il y a trois zones qui sont centralisées au même endroit, à la place du 25 août. C'est la place du théâtre, comme dit les Carpentrassiens, qui est encerclée, si vous voulez, par trois...
Mini-places, ouais.
Non, trois tribunes.
Trois tribunes,
d'accord. Ça représente presque 700 personnes assises. Et après, on peut encore mettre des gens debout. Donc, c'est la zone 1, 2 et 3. La zone 4, elle est donnée devant le palais de justice. entre les deux fontaines du Palais de Justice, devant le parvis quoi, en fait, du Palais de Justice. Mm-hmm. La zone 5 est située place d'Engembert. Et là, cette année, la zone 6 sera à la mairie.
Voilà. Donc, on garde 6 zones cette année.
6 zones.
Alors, j'ai eu l'occasion justement de discuter avec certains commerçants de Carpentras et ils se posent la question à savoir pourquoi place de Verdun, qui est une place quand même magnifique,
oui,
qui est à l'opposé, pour, qui est relativement grande, il n'y a pas justement zone, de oui. pôle d'évolution.
Mais après, c'est des réglementations au niveau de la préfecture qui nous empêchent d'aller jusque là-bas, dans le sens où ça nécessiterait de traverser la route. Et la préfecture ne nous donne pas l'autorisation à ce que les pilotes traversent la route. Ça gênerait la circulation. Ou alors, si, on pourrait le faire. Mais il faut couper la circulation du tour de ville de Carpentras. On coupe déjà la circulation dans le centre-ville. Et si, en plus, on fait le tour de ville,
ça risque d'être compliqué.
Ouais, ça devient compliqué. Ouais.
Surtout qu'en plus, il y a le couleur ce week-end-là. Donc, temps, pour se déplacer, temps, c'est un peu compliqué. Là, l'an dernier, vous avez accueilli énormément de spectateurs. On en parlait, justement. Cette année, vous tablez sur combien de spectateurs, à peu près ?
Entre 7 et 8 000 personnes.
7 et 8 000 personnes. Et au niveau des zones, comment ça se passe au niveau du programme ? On peut le récupérer quelque part ?
Alors oui, il est en cours d'impression et il sera mis en place le jour du bal des pompiers.
Donc il faut aller au bal des pompiers,
voilà,
pour avoir la primeur de ce programme.
Non, je plaisante, c'est dans le courant, avant le 14 juillet, il sortira.
Avant le 14 juillet. Ouais. Parce qu'au niveau des zones, c'est vrai qu'il faut bien s'organiser parce qu'il y a tellement de monde. Pour être bien placé, c'est pas évident.
Alors, il y aura une petite note explicative sur le programme qui va notifier les heures de passage des pilotes.
Oui.
Donc, la zone 1, 2, 3, le premier pilote va rentrer à 20 heures dedans. Il y a un pilote à la fois qui peut rentrer. Et dans ce cirque, qui est encerclé par les tribunes, ils vont rester le premier tour au moins 40 minutes à l'intérieur. Trois zones à repérer, parce qu'ils n'ont jamais mis les roues dedans. C'est-à-dire qu'ils visualisent à pied et ils franchissent la difficulté pour la première fois, quand ils rentrent, quoi. Ils ne savent pas ce que ça donne. Donc, il y a au moins 40 minutes d'évolution à la zone 1, 2, 3.
Mm-hmm.
Après, donc ça fait 20h40. De 20h45 à 21h, ils seront à la zone 4. De 21h à 21h15, ils seront à la zone 5. Et de 21h15 à 21h30, ils seront à la zone 6. Et après, ils font ça trois fois.
Trois fois.
Parce
qu'ils avaient commencé plus tôt l'an dernier, non ?
Non, 20h. Il y avait eu un show, voilà, avec un jeune de Carpentras, Rémi Maison, en vélo. Et cette année, il y sera aussi. Et il y aura un show avec une moto de trial électrique aussi.
D'accord.
Ah oui, c'est vrai que la moto électrique, on n'entend pas trop parler. On parle un peu de la Formule 1 électrique,
et
la Formule E.
Il y a eu la première course du championnat du monde de trial électrique qui a eu lieu à Lourdes. C'était en France.
J'en ai vu, moi, sur le trial au circuit de la moto, là.
Ouais. Et donc là, en l'occurrence, il y aura une démonstration de trial électrique.
Oui, avant la course.
Et par contre, on peut arriver à faire toutes les zones ?
Je pense pas. À pied, en tant que spectateur, non. Il faudra faire des choix.
Des choix ?
Oui, par rapport au niveau du monde. Hein. C'est juste le monde. Bon, alors si, mais vous serez mal placé. Oui, il faut faire des choix.
Donc, début 20h.
20h.
Donc, vaut mieux arriver une à deux heures avant.
À 4h l'après-midi, il y a déjà du monde dans les tribunes.
D'accord. En tout cas, le message est passé. En tout cas, merci beaucoup Rudy Andrieux,
c'est
éducateur.
Toujours un plaisir.
Et donc, le 22 juillet,
oui,
hein, c'est ça,
20h,
début, donc il faut arriver beaucoup plus tôt, la 8e édition du Trial Urbain International avec toujours les mêmes stars et vraiment un super spectacle.
Oui.
Merci beaucoup Rudy.
Merci à vous.
Et puis, bon été en tout cas.
Également.
Et si tu veux, on te retrouvera également ce week-end, samedi 1er, à la fête du sport en famille de
tout
Mazan.
Tout à fait.
Mais tu peux rester parce qu'on va en parler juste après cette pause musicale. No limit in the sky that I won't fly for you. No many tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no, with every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's not too steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. I want you to share that.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc de retour dans le studio, nous allons maintenant passer à au troisième événement. Alors c'est un événement qui aura lieu le 1er juillet prochain et c'est organisé par l'Office municipal des sports de Mazan, dont le coprésident c'est François Richy. Avant de parler de cet événement, parle-nous en quelques mots de l'Office de tourisme, l'Office municipal des sports de Mazan.
Bah, ça a été créé il y a une vingtaine d'années et je suis président depuis 3 ans et j'ai été renouvelé donc pour 3 ans.
Ils veulent de toi encore ?
Ils veulent de moi.
Parce que pour l'information quand même, c'est une personne qui a travaillé à la mairie de Mazan qui s'occupait de l'événementiel. Il a fait un travail énorme. Quand il est parti, ils étaient tous dégoûtés de son départ parce que franchement, il a fait un travail énorme hein, et ça, on l'a vu lors de son départ à la retraite. Mmh. Et finalement, à l'office municipal, je veux dire l'office de tourisme tout le temps, ouais. L'office municipal des sports, ils veulent te garder.
Voilà. Donc, on a la chance aussi d'avoir un réservoir de sportifs intéressant et qui mérite qu'on s'occupe d'eux pour leur promotion. Donc, c'est pas désagréable.
À Mazan, il y a combien de clubs sportifs ?
Est-ce Alors, que tu sais qui font partie de l'OMS, je crois qu'il y en a 25.
25.
Après, qui rentrent dans la grille OMS pour les subventions, c'est encore autre chose. Il faut que ça soit licencié, etc., etc. Bon, après, il y a des critères. Mais
parle bien face au micro.
Des clubs sportifs comme le foot, licenciés dans les fédérations, on en a 21.
Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, pour rentrer dans un office municipal des sports, c'est un peu comme un adhérent qui rentre dans un club.
Tout à fait. Il paye une cotisation, je crois qu'elle est de 5 euros, le club. Voilà.
Et quelle est la plus-value d'appartenir à l'OMS ?
Déjà, l'OMS sert de passerelle, enfin de trait d'union entre les instances communales, le pouvoir en place et le mouvement sportif. Donc,
vous êtes un peu les syndicats, alors ?
Non, on essaye de coordonner justement et de mettre en bonne relation tous ces gens. Notamment, bon, on nous a confié la tâche de répartir les subventions. On a une enveloppe globale qui nous est attribuée chaque année, sur laquelle on distribue les subventions par rapport à des critères et des grilles nationales. Voilà. Ça, c'est déjà une chose.
Et vous établissez des critères d'objectifs ou pas ?
Non. À Mazan, il n'y a jamais eu d'objectif fixé par la commune. Jamais. Ça a toujours été... c'est pour ça que ça marche bien, parce que les clubs n'ont pas la pression du résultat. Et ils en ont, donc... C'est merveilleux, quoi, je veux dire. Voilà.
Oui, parce qu'on a quand même le club Le Ventoux contre un handball qui va monter en National 2 après une superbe performance lors des barrages. C'était il y a déjà une semaine et demie. On en parlera tout à l'heure parce qu'il y a les marraines de l'événement qui sont les jeunes filles des moins de 18 championnes de France. Et puis, il y a quand même beaucoup de grands sportifs. On a le gym box loisir voilà, avec Bruce et Eddy Naslimani.
Eddy, il ne sera pas là ce samedi parce qu'il combat pour championnat du monde à Monaco. Donc, il s'excuse, mais bon, il enverra un champion de France, c'est pas grave.
Bah, écoute, déjà... non, mais c'est vrai qu'il y a, il y a combien d'habitants à Mazan ?
Alors, au dernier recensement, on était 6 000.
6 000 avec un palmarès... aussi impressionnant. Alors, c'est un microclimat qu'il y a là-bas ?
Je ne sais pas si c'est un microclimat ou si c'est ils se sentent bien, les sportifs. Il y a des infrastructures qui sont quand même assez riches. Et puis, on a quand même la chance d'avoir un cinquième de la population qui est licenciée quand même. Il faut le dire.
Un cinquième de la population ?
Ouais.
Moi, je pense que c'est quand même aussi un exploit parce que ce n'est pas partout pareil.
Dans les années 84, je crois, on avait été élu la commune la plus sportive de France par rapport au nombre d'habitants et au nombre de licenciés. Voilà. Donc, ça perdure.
Et donc, à l'OMS, vous êtes deux présidents, donc des coprésidents. Oui. C'est une volonté de qui ? De la municipalité ?
Non, c'est une volonté de tous les deux.
Donc Robert Michel et toi.
Voilà, avec des idées différentes, mais on est tous là pour œuvrer pour le sport et le bien. Donc on a mis nos égos de côté, parce qu'on en avait. On avait des différences et des divergences, je dirais, par le passé, qu'on a gommées quand on a été élu. Et on a dit, on va travailler pour le sport et non pas pour notre propre chapelle, voilà.
Et tu penses que le fait justement qu'il y ait cette coprésidence, ça marche mieux que s'il y avait qu'un seul président ?
Ouais, parce que bon, on est beaucoup plus présent. On fait toutes les assemblées générales sportives. On fait tous les événements sportifs. S'il fallait se les partager, ça serait compliqué, je veux dire.
Donc, partagez les tâches.
Voilà, on partage les tâches et les présences, et puis voilà, ça marche bien.
Donc là, au niveau de l'OMS, donc seuls les clubs affiliés peuvent justement bénéficier des avantages. Donc on parlait des subventions sportives. Ouais. C'est-à-dire un club qui n'est pas affilié à l'OMS n'aura pas de subvention municipale ?
Il a une subvention municipale, mais qui est une subvention de fonctionnement. Est-ce que nous, c'est une enveloppe globale qui est destinée au sport et qui est rendue au club par l'intermédiaire de critères. On rentre dans des grilles OMS nationales. Avec le déplacement, le rayonnement, les écoles de sport, etc., etc. Donc il y a plein de critères, on fait une moulinette et hop. Donc la municipalité, pour ainsi dire, elle se dédouane. De dire j'ai donné ci, j'ai donné là, elle se retranche derrière les grilles, donc elle est tranquille, elle ne peut pas être jugée comme favoriser un club ou pas.
Voilà. Ouais, donc je trouve que c'est une bonne chose.
Ça marchait comme ça à Carpentras, puis après ça a dérivé, je crois. Donc après, ils ont repris la main, les politiques. Mais là, après, rien n'empêche un club de demander une subvention exceptionnelle. Comme c'est le cas, par exemple, le handball va monter en National 2, demande une subvention exceptionnelle. Nous, on ne la donne pas.
Donc, ça, c'est la municipalité qui va s'en occuper.
Qui juge, qui dit, ils en ont besoin parce qu'ils montent en National 2, ce qui est normal. Nous, on donne l'enveloppe qui leur est destinée par rapport à leurs critères et à leurs résultats.
Alors, justement, tu parlais de l'OMS de Carpentras. Quelle relation vous entretenez avec l'OMS de Carpentras ?
Ben, de très bonnes relations, puisqu'en plus je suis coprésident, enfin je suis vice-président de l'OIS défunt, parce que je crois qu'il va mourir. Mmh. Et Régis Trentenaire en est le trésorier. Donc on se voit souvent et on en discute souvent. Non, il n'y a pas de. Mais on fonctionne différemment, avec des moyens différents. Nous, on est bénévole 100%. Lui, il a un peu des salariés et il fait différemment.
Nous. Parce que c'est vrai que ce que fait l'OMS de Carpentras, et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un service qui est amené au club, et Rudy, tu as peut-être dû en entendre parler, comme tu fais partie des clubs de Carpentras, c'est la mise à disposition gratuite de minibus. Et c'est vrai que ça a été une nouveauté sur le territoire de Carpentras, et Régis, c'est vrai, il m'a dit, si nous on peut développer ça, donc augmenter le nombre de minibus, et pourquoi pas l'étendre sur le compte à Venessin, pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est quand même un service qui est non négligeable, parce qu'un minibus n'est pas donné. Et là, ben, beaucoup de clubs en bénéficient. Je sais que le rugby à 13 en bénéficie. D'autres clubs en ont profité aussi.
Ben, nous, on a fait différemment. Le handball, ils sont en train d'en acheter un, hein, avec la participation de sponsors et puis de subventions du conseil régional. Ils sont en passe. Il leur manque, je crois, je lance un appel, il leur manque 2 500 €, je crois, pour boucler l'achat de ce minibus.
Donc, voilà. Et je sais qu'ils ont lancé aussi un financement participatif il n'y a pas si longtemps.
C'est ça.
Tout à fait.
Voilà.
Donc là, sur Facebook, hein, sur la page justement du handball de Mazan, vous aurez tous les renseignements sur le financement participatif. On fait une petite pause et on va parler de la fête du sport en famille. Allez, à tout de suite.
D'accord. It was great at the very start. Hands on each other. Couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors.
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, de retour dans le studio de Carpentras-Serre, dernière partie de l'émission. Mais oui, ça se termine bientôt. Et ensuite, on ne se reverra qu'en octobre. Alors, je suis avec François Richy et
Rudy
Andrieux. Donc, parce que tous les deux, vous allez. Même tous les trois, on va participer à cette fête en famille, fête du sport en famille, qui aura lieu donc samedi 1er juillet, troisième édition, hein, François ?
Oui, troisième édition. Oui.
Pourquoi avoir créé cette fête ?
Mais disons que c'était un besoin de promouvoir, c'est une façon de promouvoir le sport à Mazan, et ça existe dans d'autres villes, hein, pas dans d'autres communes, parce que c'est quand même assez rare. Dans d'autres grandes villes, ils le faisaient. Et on s'est dit, pourquoi ne pas le faire ? On a quand même un réservoir sportif qui nous le permet, des installations assez vastes pour accueillir et pour faire quelque chose de pas mal. Donc on a dit, on va essayer. Voilà. Donc le premier essai a été pas trop mal, puisque tu y étais, je me rappelle. On a eu un flux de 250 personnes tout au long de la journée. Donc ça fait...
Oui, et puis on voit le sport autrement.
Voilà.
Donc, c'est ça qui est bien.
Oui, par exemple, les cyclos, cette année, ils vont inventer un parcours avec des sauts, des machins, etc. Ce ne sera pas du cyclo sur route, quoi. Ils vont présenter leur discipline différemment.
Il y a Rudy. Rudy, tu seras là. Oui, on parlait justement du circuit.
Le motoclub a demandé à Rudy de monter sa structure gonflable pour une initiation aux petites motos, je crois que c'est ça.
Il y a petits quads,
non ?
Non, que des motos.
Que des petites motos. Oui. Voilà. Ben, ça avait rencontré un franc succès il y a 2 ans.
C'était normal, tu montes sur.
Je crois que je les ai mises en route le matin, je les ai éteintes le soir. Elles ne se sont jamais éteintes.
Oui, ça m'étonne pas.
Il y a eu du monde toute la journée, ça ne s'est jamais arrêté.
Voilà, et puis pour essayer d'attirer le monde, on a aussi loué des structures gonflable. Il y a 2 ans, on avait fait un mur d'escalade. Ça avait bien plu, ça. C'est quand même particulier, un truc qui devait faire 5 ou 6 mètres de haut.
Ouais, mais on t'a pas vu monter dessus. Hein. Ah, tu étais un peu dégonflé quand même.
Ouais, je me rappelle, tu m'avais lancé un défi. puis bon, des châteaux gonflables pour les tout petits. Donc, c'est pour ça que c'est en famille. C'est pas réservé qu'à celui qui veut faire une discipline sportive à part entière. Il vient découvrir, il vient voir. Puis bon, c'est la vitrine. Chaque club montre.
Son savoir-faire
et puis se vend, essayer de se vendre quoi.
Alors à l'époque il y avait donc les parrains, c'était Bruce Caudron, il y avait également Eddy Nassidemani, il y avait également la judokate, j'ai perdu son prénom, Marion, non Margot,
comment ça s'appelle
Attends, si tu l'as perdu, tu vois.
Non.
Bon, ça va nous revenir.
Oui.
Cette année c'est les moins de 18 du handball de Mazan qui sont championnes de France.
Voilà, ben c'est spontanément, avant de faire, toujours prendre les mêmes parrains, on a dit, on a des champions qui arrivent, on va changer de discipline, et puis ça est tombé tout cuit dans notre bec. On a demandé, on a téléphoné à Pascal Vassé pour savoir si c'était OK.
Le manager du club.
Voilà, il nous a dit, pas de problème, elles seront là. Donc voilà.
Alors, par contre, il y a de sacrées nouveautés. Et des clubs qu'on ne connaissait pas forcément.
Voilà, donc on n'a plus de karaté, donc on a invité le club de karaté d'Aubignan qui vient d'en faire des démonstrations toute la journée. On a la chasse qui, pendant plus de...
Il y a un club à Mazan.
Il y a une société de chasse, oui. Depuis 20 ans, elle ne voulait pas rentrer dans le giron du sport, etc., etc. Et puis le nouveau président, j'ai dit, écoute, moi, pour moi, c'est un sport à part entière, la chasse, hein, comme la pêche d'ailleurs. La pêche, j'ai pas pu encore les avoir, mais je. Donc la chasse viendront pour la première fois à la fête du sport,
avec présenter bon, les animaux empaillés, etc., etc., la façon de chasser, tout ce qui se rapporte à la chasse.
Et puis, il y a un club, je ne sais pas si tu savais, qu'il y a un club de paintball à Mazan.
Voilà.
Ah bon, non.
Voilà, donc bah, c'est un club qui existe depuis 10 ans.
Ben, bah, tu vois.
Ça s'appelle Ventoux Paintball. C'est un des privilégiés, je dirais, pas de la région PACA, mais presque en France. Ils ont à leur disposition 2 hectares de pleine nature. Donc, ils font des parcours...
Paintball et laser.
Mais à quel
pas
endroit?
Pas encore laser, pas encore.
Non?
À Mazan, sur Route de Blovac.
D'accord.
Ah, pas encore, c'est une nouveauté alors.
C'est pas encore sorti, ça.
Ah, c'est pas encore sorti.
Donc, ils sont une 20aine de membres et ils s'éclatent tous les dimanches dans la forêt et avec beaucoup de sécurité. Et le président, qui s'appelle Steve Talbot, me disait ce dimanche que je les ai rencontrés, il me disait que ça fait sortir les jeunes de devant leur écran, parce que ceux qui sont accros aux jeux vidéo de guerre, etc., ça les fait sortir de devant l'écran et aller en pleine nature, rencontrer les autres. L'esprit d'équipe, c'est très très bénéfique. Donc voilà, ils seront là samedi. Ouais.
Donc en fait, donc tous les clubs de Mazan, en tout cas une bonne partie des clubs de Mazan de sport seront présents. C'est au COSEC de Mazan.
Tout à fait.
Le rendez-vous est fixé à quelle heure alors? De quelle heure?
Ça ouvre à partir de 10h. L'inauguration officielle aura lieu à 11h30 avec pas mal de
personnalités.
De personnalités. Tout est gratuit.
Et on pourra se restaurer sur place?
Voilà, il y a une buvette et des grillades qui seront prévues. Et tous les bénéfices de la buvette reviendront à l'office de sport pour pouvoir faire l'année suivante, la quatrième fête.
Donc vraiment, tout pour prendre plaisir. En plus, c'est gratuit. On pourra faire de la moto. On pourra s'initier à toutes ces activités. Il y a le château gonflable.
Il y a on a prévu l'acrobranche cette année. C'est quand même un manège assez intéressant sur lequel il y a 4 ou 5 ateliers dessus.
Et à partir de quel âge on pourra s'initier tout ça?
Ah ben c'est tout...
Tout public.
Tout public.
Super, bah en tout cas le rendez-vous est pris, donc à partir de 10h samedi 1er juillet, avec bien sûr le Ventoux Loisirs qui sera là pour les petits baptêmes de moto.
Le motoclub Mazané.
Le motoclub Mazané.
Qui a demandé
au Ventoux Loisirs. Mais en tout cas, merci beaucoup François Richy, coprésident de l'Office municipal des sports de Mazan. Merci Rudy Andrieux, éducateur au Ventoux Loisirs, qu'on verra sous une autre étiquette, mais on pourra tester les petites motos. Merci mon petit Bruno.
Salut Lionel.
Merci à notre invité de ce soir, j'ai mangé ton prénom, excuse-moi, Nathan. Bonne semaine sportive à toutes, bon été parce que c'est la dernière. Et on se retrouve en octobre. À bientôt.
Allez, à samedi, au revoir.